Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Café de la Recherche Engagée. Comme vous le savez peut-être, on enregistre ce podcast à partir de l'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger situé à Ottawa. Comme la tradition ottavienne le veut bien, sachez que cet épisode va être en partie bilingue. Donc certaines parties vont être prononcées en anglais. Donc je vais juste vous avertir avant que ça commence si jamais cela peut causer problème pour vous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est plutôt loin de mes champs d'intérêt de recherche. Donc, c'est un sujet qui, personnellement, va beaucoup m'intéresser. Également, beaucoup de questions à poser à nos invités. De mon bord, j'ai l'impression souvent que j'ai une vision un peu rationnelle de la vie, de la recherche en général. Et donc, j'essaye de plus en plus, en étant ici étudiant en sciences sociales, de changer un peu mes perceptions, de changer un peu ma vision de ce que ça devrait être la recherche, de ce que ça devrait être le changement social, par exemple. Et une façon que j'utilise beaucoup pour sortir de cette « rationalité », entre guillemets, c'est par l'art. Là. Donc, j'essaye de consommer plus de contenu, de la musique, du cinéma, d'en apprendre plus sur différents artistes, peintres, entre autres. Et donc, aujourd'hui, le sujet principal de notre balado, c'est vraiment ça. Donc, c'est la recherche. Et on va poser beaucoup de questions intéressantes, notamment, est-ce que c'est possible d'allier l'art et la recherche, alors que c'est deux milieux qui est d'un côté très rigide, très institutionnel, et de l'autre, quelque chose qui est très abstrait, très créatif. Donc, deux réalités différentes qui vont un peu s'allier sous un sujet, en fait. Donc, c'est un peu ça qu'on va discuter aujourd'hui. Je suis accompagné par deux personnes très intéressantes qui vont certainement avoir beaucoup à dire sur le sujet. À ma gauche, on a Mattia Scarpuia, stagiaire qui est postdoctoral à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère, ici à Saint-Paul, à Ottawa. Et à ma droite, Lauren Lévesque, qui est professeur de l'École de leadership transformatif et de spiritualité également à l'Université Saint-Paul. Tous deux membres du CRIT, bien évidemment. Bonjour à vous deux.
Bonjour, Félix. Merci pour l'invitation.
Bonjour, Félix. Merci beaucoup.
J'aime le faire un peu au début de chaque épisode, vous savez bien. J'aime beaucoup, en fait, commencer par une petite description de leur recherche en 30 secondes. Donc, c'est un exercice qui est quand même difficile à faire. C'est quand même assez court, 30 secondes, pour que vous puissiez un peu commencer par comprendre de ce que nos invités parlent dans leurs travaux quotidiens. Donc, Mathias, je peux commencer par toi.
Oui, donc, ma spécialité, je travaille en recherche et création, et plus précisément en recherche et création littéraire. Et ce qui m'intéresse, c'est des nouvelles pédagogies en création littéraire. Et qu'est-ce que la création littéraire peut apporter dans la rencontre avec d'autres disciplines, par exemple avec les sciences sociales.
Parfait, donc bien court, bien concis, on aime ça. Et du côté de Lauren?
Alors, je dirais que mes recherches tournent autour du rôle de les arts, en particulier la musique, dans le changement social. Alors, c'est vraiment court.
Tu as ravi l'exercice 30 secondes, mais en 10 secondes, c'est parfait. parfait. Ben, en fait, c'est des questions peut-être qui vont sembler un peu très, très ouvertes, puis vous en faites ce que vous voulez avec ma question. Mais c'était comme une question, en fait, de définir pour vous ce que ça représente le terme musique puis le terme création littéraire. Donc, j'ai commencé par Lauren, puis on peut utiliser beaucoup d'expériences peut-être personnelles par rapport, mais c'est quoi pour toi, en fait, la musique? C'est quoi ta vision de la musique?
Pour moi, je dirais que la musique est vraiment une expérience. Et je dirais un état, a state of being. Alors, pour moi, je travaille principalement avec le chant et la voix. Alors, mon corps est mon instrument, d'une certaine façon. Alors, c'est une expérience d'être dans notre corps et aussi en relation avec le monde autour de nous. Et ça fait aussi partie des expériences de l'écoute et de la silence.
Je passe le micro maintenant à Mathia. Là, c'est sûr que moi, là, je connais, mettons, c'est quoi la littérature, je connais un peu l'idée. C'est quoi au jeu de la création littéraire? C'est quoi la distinction peut-être à faire?
Oui, donc la création littéraire, donc je rejoins ce qu'a dit Lorraine sur le fait de l'expérience. Personnellement, pour moi, c'est une expérience que ça m'épanouit parce que écrire en prose ou en poésie, ça me fait du bien. Mais d'un point de vue vraiment plus professionnel ou disciplinaire, la création littéraire, c'est apprendre savoir progressivement bien écrire des textes, que ce soit de l'écriture créative, donc savoir écrire des courtes fictions, mais ça peut toucher aussi l'écriture de soi, donc savoir aller vers une écriture autobiographique. Alors on parle du récit, sinon aller plus vers des formes qui quittent la narration, donc vers la poésie. Et la création littéraire dans l'université, c'est des cursus qui permettent de pratiquer l'écriture, mais aussi pratiquer l'écriture pour ou devenir écrivain-écrivaine ou pour travailler dans le milieu littéraire. Donc il y a plusieurs rôles, éditeur, éditrice, dans la communication, dans la commercialisation. C'est à ça qui ça sert. Il y a aussi, il y a l'écriture créative, mais en création littéraire, il y a aussi l'essai. L'essai comme que c'est une variante de l'article universitaire et c'est qui a différentes formes, donc c'est vraiment apprendre l'écriture. La création littéraire souvent se trouve en littérature parce qu'on passe de la pratique de l'écriture, on apprend à écrire pour ensuite lire différemment et analyser différemment les œuvres des autres auteurs-autrices.
J'essaie de me mettre un peu dans ta peau, mais d'écrire beaucoup de littérature, d'écrire beaucoup de textes, même si c'est pas académique, ça peut nous aider éventuellement à écrire des textes académiques dans l'optique où on fait de la recherche. J'ai l'impression qu'on va en revenir tantôt quand on va parler un peu de plus précisément de la recherche. J'ai quand même pas touché en fait à vos expériences personnelles, puis je sais que ça peut être intéressant pour comme commencer le balado de parler un peu de vos expériences dans vos milieux respectifs. Toi, Mathia, est-ce que toi tu as rédigé des livres, est-ce que tu as rédigé des recueils de poésie peut-être dans le passé?
Oui, donc dans le milieu littéraire, donc j'ai travaillé comme auteur. Donc j'ai publié un roman, un recueil de nouvelles, un nouveau roman va paraître en octobre, j'ai publié plusieurs recueils de poésie et donc j'ai travaille aussi avec des groupes d'écrivains et écrivaines pour faire des performances, pour construire des soirées littéraires ou soirées de réflexion. Et puis, de l'autre côté, je suis aussi éditeur, directeur littéraire pour la maison d'édition Tête Première. Donc, j'accompagne d'autres auteurs-autrices à finaliser leur recueil de nouvelles, leur roman pour les publier. Mais comme chercheur, ça m'intéresse comment on transmet la création littéraire, qu'est-ce que ça peut servir à transmettre la création littéraire. Et donc, j'ai travaillé autour de l'atelier d'écriture.
Mm-hmm, absolument. Et de ton côté, Lauren?
Pour moi, j'étais pour dire que la musique, c'est une expérience, mais c'est aussi important de souligner que c'est une pratique aussi. Alors, ça fait depuis que je suis 12 ans que j'étudie la musique. Et j'ai fait un bac en musique dans la musique classique. J'ai étudié l'opéra. Alors, après mon bac en musique, j'ai réalisé que je pense que je n'avais pas vraiment l'attitude nécessaire pour être une musicienne professionnelle, dans le sens où j'avais... des prestations, pour moi, c'était des performances, c'était vraiment difficile à cause de l'anxiété de la performance musicale. Mais je savais que je voulais utiliser la musique ou d'avoir la musique dans ma vie d'une certaine façon. Alors, j'ai décidé de poursuivre mes études. La musique est devenue, et les arts, de façon plus générale, ont devenu comme un axe de mes pratiques académiques et aussi de mes recherches. Alors, pour moi, c'est très important d'amener, comme vous avez mentionné au début, des façons de faire différentes en termes de nos façons de faire le scholarship engagé et les pédagogies engagées. Alors, pour moi, je dirais que je commence presque toujours de l'idée de, des pratiques artistiques ou de l'acte de création. C'est le début et après, I like to see what emerges out of moving from the arts out and back again in terms of scholarship and research.
Donc, en fait, je trouve ça intéressant que tu n'as pas, en fait, négligé la partie de ta vie qui était dédiée à l'art et tu as décidé plutôt de, le, de l'utiliser d'une façon ou d'une autre pour la transformation sociale, pour une certaine, un changement social. Je sais que l'on parle de, d'art, de musique, de création littéraire. C'est une question qui est assez ouverte, là, donc je vais commencer un peu par Mathis, je t'en parlais un peu des ateliers, mais comment est-ce que chaque type, donc chacun de vos types d'art, peut être donc au premier front de ce changement social, parce que là, on est en innovation sociale, donc on vise un changement social plus profond de la société. Puis à mon sens, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens que je fréquente à, dans cette école-là, ici, dans l'atelier, qui sont liés de près ou de loin à l'art. Donc, soit qui ont étudié en musique, soit qui font de la recherche sur la musique et tout. C'est intéressant de voir, en fait, peut-être qu'il y a un lien un peu direct à faire entre l'art et le changement social. Et donc, je vous demande, en fait, c'est quoi juste ce lien-là qui peut être fait de manière peut-être générale? Je sais que Mathias, j'ai vu passer que tu as fait beaucoup d'ateliers, en fait, de création littéraire avec des gens. Ici, peut-être que c'est une partie de la réponse qu'on pourrait commencer à donner, en fait, sur ce cette intégration de l'art dans le changement social?
Donc avant d'arriver à l'innovation sociale, j'ai obtenu un doctorat en recherche et création. Et encore avant, j'ai un cursus doctoral en danse. Pendant ce premier doctorat, donc, je me suis trouvé à étudier différentes techniques somatiques, donc des techniques du genre yoga, Feldenkrais. Donc, c'est technique, ça sert pour entraîner le corps, mais aussi pour apporter une conscientisation sur soi. Et pendant mon deuxième doctorat en création littéraire, donc, j'ai organisé différents dispositifs d'ateliers de création littéraire, donc on s'est rencontrés pour écrire, mais on passait aussi pour de l'activité physique. Et les résultats un peu obtenus dans la thèse, c'est que ça glisse le centre de la recherche. On est là pour écrire, mais finalement, il y a des transmissions inattendues, des apprentissages inattendus, parce que vu qu'on passe le temps à respirer, à faire des exercices de mouvement, on écrit, mais finalement, le moment de la discussion, ça devient beaucoup plus important. Le moment dans lequel on parle peut-être plus du milieu littéraire ou de la relation à l'écriture, donc de manière plus intime, ça devient important. Donc, il y a comme des apprentissages inattendus qui sont portés par le fait d'intégrer une discipline dans une autre discipline, donc de changer le cadre théorique et de conséquence le cadre pratique. Et donc là, ce que ça m'intéresse en innovation sociale, quand j'ai rencontré je lui ai proposé le projet à ma superviseuse Julie Châteauvert, c'est qu'est-ce que la création littéraire peut apporter dans d'autres disciplines. Mm-hmm. Et déjà, un exemple, c'est le récit de soi. Même si on écrit en prose ou en poésie, si on essaie de raconter une histoire, il y a le fait qu'on peut essayer de faire travailler les personnes sur leur parcours ou professionnel, ou sur leur parcours de vie, ou sur leur parcours pendant un cours, pendant une formation, je ne sais pas, depuis la première année et jusqu'à quand ils rédigent un mémoire, et de comment ils racontent cette expérience. Ça, c'est pour donner un exemple que j'improvise là, mais dans ces cas, il y aurait le fait que la personne raconterait, trouverait des manières de raconter qu'est-ce qui lui apporte de se distancier critiquement sur son parcours et d'y revenir par la parole, par la forme écrite. Donc, il me semble que l'écriture, ça peut amener à une conscientisation différente de ce qu'on est en train de faire, mais il faudrait le tester, l'essayer dans différents parcours, comme par exemple en sciences sociales ou dans des cours, parce que ce serait vraiment d'être là, pas pour écrire une œuvre qui sera certainement publié, mais c'est plus pour faire de l'écriture qui puisse mm-hmm. servir dans les buts de cette formation-là.
C'est intéressant parce qu'on dit souvent qu'on fait de la recherche un peu des fois de distancier un peu de la recherche, de dire on prend une petite pause, puis des fois le temps, mettons, on prend une semaine, qu'on fait autre chose, souvent avoir le temps de penser, puis de recommencer, d'être productif, mais d'avoir cette vision-là un peu de de pouvoir écrire, de changer un peu de ce qui est écriture académique tout le temps, donc très, très cartésien, pour aller faire des types, comme tu as dit, de l'écriture sur son parcours, des différentes activités physiques. Ça permet peut-être de libérer certaines choses qui, en fait, vont peut-être refaire sortir certains biais qu'on a, certaines visions peut-être préconçues qu'on a, puis un peu refaire cette vision. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est un peu ça que tu voulais
oui.
un peu nous...
Ouais? J'ai pensé à deux exemples pendant des cours là en création littéraire à l'Université Laval. Je faisais commencer les cours par des exercices de respiration et après par des exercices d'écriture automatique. Donc ça, c'est ce que tu dis, ça fait sortir, peut-être on garde rien de ce que ça sort là, mais ça sert vraiment pour se concentrer sur le moment présent et faire sortir un peu les tensions ou autre. Donc après, on est prêt. Donc ça, je le faisais en création littéraire, mais pourquoi pas, on pourrait très bien le faire dans d'autres disciplines, parce que ça, c'est, l'important, c'est pas vraiment ce qu'on écrit, ça sert, mais ça sert juste la prédisposition au cours. Et puis, j'ai pensé aussi à... Bon, j'ai oublié le deuxième exemple, donc ça sera
c'est bon. Aucun problème. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Lauren, sur cette question-là, sur l'articulation entre le changement social et l'art, là, peut-être une expérience plus précise avec la musique, entre autres? Là.
Mm-hmm. L'histoire de la musique et le changement social est très longue.
Oui, ça, c'est sûr qu'on
alors,
on est dit longtemps.
Il y a beaucoup de communautés et de contextes qu'on pourrait discuter, mais je pense, pour moi, mes expériences autour de la musique et le changement social, c'est vraiment à deux niveaux. Comme Mathieu a mentionné, il y a le niveau individuel ou personnel où la musique peut servir comme modalité de réflexion critique sur soi. Alors, cette idée de consciousness raising, en anglais.
Une
conscientisation. Oui, merci,
Mathieu. Conscientisation.
Autour de nos propres façons de faire, nos pratiques, nos processus en termes d'agents de changement. Pour beaucoup de personnes, la musique, c'est quelque chose qui nous aide à être dans le monde, je dirais. It can be therapeutic, it can be something that really anchors you or grounds you in yourself and your intentions. Mais je dirais aussi que au niveau collectif, la musique fait partie de plusieurs mouvements sociaux. Dans plusieurs contextes, comme j'ai dit, et plusieurs communautés. Alors, ça fait partie de comment les communautés, how they build capacity and how they come to be in relationship with themselves, as I mentioned, with each other, but also with their goals as leaders as agents of social change.
Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup dans l'histoire, la musique en général a toujours un peu brisé des barrières, des plafonds de vitre un peu. Donc, quand on pense à différentes communautés, notamment la communauté noire aux États-Unis, qui ont créé le jazz, qui ont créé plusieurs types d'art, en fait, qui sont très, très, on pourrait dire, mainstream aujourd'hui. Et donc, ça a été comme des façons un peu pour ces communautés-là de briser de se rapprocher peut-être. Donc, quand on pense notamment à la musique gospel qui était dans les grandes églises, dans les églises à l'époque évangélique.
Yeah, so I'm gonna respond in English so that... I think you're speaking about the use of music and the American Civil Rights Movement, or movements, I should say. Yeah, absolutely. It was a key factor in building capacity for activists, part of the African American community for sure. A lot of it will grow out of the role that music plays already in communities and particular contexts, and how individuals and groups harness or leverage their own musical traditions. So I think the idea of when we're talking not only about the role of music in social change, but also how we approach it as researchers, the idea of really being informed about the context and how what's happening on the ground already can be really important. Personally, I did my doctoral research on contemporary protest music that was written during the Bush presidencies from 2001 to 2008. So looking at how, because my background is also in religious studies, so I was looking at how protest music performances could be used to reimagine spiritually motivated peace activism. So as Mattia was saying, you know, the arts are often used as not only in practice, but also in mm-hmm. from a theoretical perspective to reimagine the frameworks that we're using, whether from a research or from an activist perspective. So there's something about the act, the moment of being in your body, critically reflecting mm-hmm. individually, but also as a community, that can be really powerful. So music has been used in that context. I think it's also important, just to finish off the thought, that the arts are also used in different contexts and communities to promote violence, to support systems of oppression, and as propaganda. So I think in our discussions about the arts in social change, but also in arts-based research and research creation, it's important to hold that there's a certain complexity and ambiguity to the arts
right.
and how they're used in different contexts and communities. So, yeah.
Ben, fait que si je peux résumer un peu, donc pour peut-être par rapport à l'anglais, je sais que la musique en tant que telle a comme peut redéfinir les cadres peut-être de ce qu'on attend pour la société puis par la recherche peut-être dans une perspective plus précise. Puis, justement, quand on pense, là, je sais que, par exemple, Lauren parlait de son doctorat qui était sur, si tu me trompes pas, si j'ai mal compris, sur les mouvements musicaux qui étaient par rapport à la paix dans le temps de l'administration du président Bush. Donc, j'imagine que ça avait un peu en lien avec la guerre qu'il y a eu en Irak et tout ça, c'est bien ça? Parfait. Donc, c'est un peu des mouvements, en fait, là, donc de voir comment est-ce qu'en général, la structure sociale peut être changée par l'art, notamment la musique. On sait dans l'histoire qu'il y a eu des grandes répercussions sociales avec la musique. Mais aussi, de l'autre côté de la médaille, on a cette perspective-là que la musique peut être utilisée de manière que ça a été dans l'histoire d'une propagande pour des mouvements qui sont très divisifs. Là. Je ne sais pas si c'est des exemples de ces mouvements-là historiques peut-être plus négatifs. Je sais qu'on parle beaucoup de mouvements positifs. C'est quoi des choses peut-être dans l'histoire qui ont eu des impacts comme négatifs au changement social finalement?
Yeah, so the first thing that comes to mind is music being used in white power movements mm-hmm. in the States. So, and also as part of, in situations of conflict, it's not just music, but when we're talking about government propaganda, the use of radio stations, for example, that mm-hmm. are employed to communicate messages of hate. So I think that there can be a tendency to think about the arts in a positive light, which I'm all about because that's what my research and my practices are about. But I think that there can sometimes be a certain romanticization about what the arts can bring, and often it's not the arts in and of themselves, because that's putting a lot of pressure on a particular artistic practice, but it's the ways in which people engage individually and collectively, and the energy and the spirit that they bring to mm-hmm. the practices and to the modalities of inquiry that are really the foundation for social change. Can you summarize that?
Ben en fait, c'est un peu l'idée en fait générale. Là, tu as donné des exemples de musique qui pouvait être utilisée pour les mouvements white power, entre autres. Là, donc, également, qu'on utilise des fois les ondes en fait pour transmettre des messages, là, notamment dans le temps peut-être de la guerre, qui aurait pu être utilisé peut-être pour transmettre des trucs positifs, la musique, de l'art, et qui est utilisé pour transmettre des messages qui sont parfois, comme on dit, divisifs. Donc, ça a ce double rôle-là, alors qu'on veut promouvoir la musique comme étant un changement qui est positif, ce qui, bien évidemment, est le cas une bonne partie du temps. Donc, c'est des messages positifs. Toutefois, il y a des fois où que la musique, même dans les paroles, dans les façons que c'est proposé, que c'est des paroles qui sont divisives, qui cherchent à créer une forme de discrimination de la société, peut-être. Mathias, est-ce que tu as un exemple, peut-être, dans la littérature, des choses? Donc, peut-être des exemples plus concrets dans l'histoire de comment la littérature a affecté le changement social dans son ensemble, peut-être?
Oui, mais je pense que c'est déjà... je trouve très intéressant tout ce qu'a dit Lorraine, parce que c'est vraiment... il y a la création, mais c'est l'acte social qu'on fait à travers la création. Mm-hmm. Donc, ça, c'est... Ça m'a fait écho, en tout cas, à plusieurs situations. Je ne sais pas, je pense juste en Italie, l'écrivain Roberto Saviano, lui, il a écrit quand même un roman que pouvait peut-être se perdre dans beaucoup d'autres romans autour de la mafia italienne, mais finalement, il a dit tellement de choses intéressantes dans ce roman Gomorra, parce que il y avait toute une documentation journalistique à la base, et il en a fait un roman, que finalement, il a gagné une condamnation à mort de la mafia. Donc lui, depuis l'âge de 26 ans, il ne peut plus voir sa famille. Sa famille pourrait avoir aussi condamné, parce que sinon, il pourrait risquer la vie. Et donc, il passe le temps avec ses gardes de corps partout. Mais juste que désormais, sa vie s'est devenue, et son écriture s'est devenue son engagement. Donc, à chaque fois, par exemple, maintenant qu'il y a la droite italienne qui est de nouveau au pouvoir, il fait des prises de position continuelles. Aussi parce que ça lui reste que ça, mais donc il fait partie d'un groupe d'écrivains, journalistes italiens qui continue à prendre la parole, mais c'est prendre la parole, c'est un risque. Il utilise aussi donc forme de création, forme d'essai, et il gagne des amendes de la part. Donc c'est ce qui se passe maintenant avec tout la nouvelle droite, que c'est toujours la même droite, mais en tout cas le nouveau gouvernement au pouvoir en Italie. Mais sinon, je trouve que c'est très intéressant aussi tout le mouvement de l'autofiction. Un peu, je dirais, dans différents pays, France, Québec, Canada, le fait de finalement, l'autofiction a permis surtout à des autrices, à des écrivaines, de dénoncer leur situation de vie et de trouver une manière, avec comme point de départ leur vie, ce qu'ils subissent en tant que femmes, ce qu'ils doivent conquérir en tant que femmes, et de comment ils le transforment avec l'aide de la fiction qu'ils ajoutent pour construire leur roman d'autofiction. Donc je pense par exemple à la chercheuse écrivaine Martine Delvaux, et aussi que dans la maison d'édition qui me semble qu'elle co-dirige avec Olga Duhamel aussi, il y a plusieurs œuvres en autofiction qui des littératures écrites par des femmes qui sont très très importantes, je trouve, aujourd'hui pour ce qui contexte dans le monde. Ça, c'est des exemples qui ça me vient.
Notamment, je pense que c'est un peu le cas aussi de la plus récente, si je me trompe, le gagnante du prix Nobel de la littérature, Annie Ernaux, qui a écrit aussi beaucoup dans sa vie des exemples de... bien évidemment, c'est des œuvres de fiction, mais encore là, c'est très, très inspiré de sa vie, de la pauvreté, des relations qu'elle a eues avec sa famille, entre autres. Donc, il y a de quoi de très important dans le changement social, de prendre conscience des fois de la qualité de vie de certaines personnes pour, en fait, faire une réflexion sur sa propre qualité de vie et sur la... Peut-être la proposition sociale, donc est-ce qu'on devrait aider davantage certaines tranches de la population ou autres? Donc je pense que peut-être elle aussi, elle a amené une grande conscientisation, notamment dans la littérature française et francophone, disons.
J'ai passé aussi là en Russie, mais c'est à la limite parce que j'utilise un peu plus un groupe de performances, utilise l'écriture, la musique, le mouvement, c'est les Pussy Riot en Russie, que ça fait tellement de temps qu'il prend des prises de position, qui sont des prises de position sur des sujets queer, dans des sujets contre la politique de Poutine, et continue à entrer, à sortir de prison. Mais là, il y a vraiment, il y a risque de risque de leur vie, mais elle continue à faire, et ce qui ça marche vraiment bien, et me semble dans leur cas, c'est vraiment qu'ils passent pas seulement par une dénonciation, ils dénoncent, mais qu'aller dans une église orthodoxe et faire une performance, ça choque beaucoup plus. Et donc ça, c'est la puissance aussi de l'acte artistique, me semble, parce que c'est ça que ça choque plus, un peu comme Roberto Saviano a écrit un roman journalistique, mais avec peut-être une précision donnée par l'art du roman, que finalement il s'est gagné la condamnation à mort pour la mafia, parce que s'est senti complètement, les chefs de la mafia se sont sentis offensés.
C'est très intéressant. Tout ça, ça m'inspire beaucoup. Puis des fois, on oublie en fait à quel point l'art est important, parce que l'art a comme rôle des fois de briser un peu des barrières qu'on pensait qu'elles étaient préétablies avant. Donc, dans tous les cas, ici, on a vu qu'il y a différents exemples de choses qui brassent un peu la société en général. Je vais peut-être vous poser la question maintenant par rapport, parce qu'on est un podcast bon, de recherche avant tout, donc c'est de parler un peu de cette recherche-là. Maintenant qu'on a, on a tracé l'histoire de l'art dans le changement social, ou du moins une infime partie de ça, comment est-ce qu'on intègre cette partie-là très artistique dans quelque chose qui est très concret comme la recherche? Je ne sais pas si tu veux commencer, en donnant des exemples concrets peut-être dans vos recherches respectives de comment vous y arrivez en fait.
Je pense pour moi, un point de départ, comme j'ai mentionné, c'est d'envisionner les arts, ou un art en particulier, comme un pratique ou un processus. Alors, c'est un point de départ pour voir comment tu pourrais peut-être intégrer, je vais parler de la musique, intégrer la musique dans vos propres recherches. Alors, pour moi, un exemple particulier, c'est je fais des recherches basées Arts-Based Autoethnographic Research. Alors, j'utilise le chant comme un pratique et un processus de réflexion critique, non seulement sur moi comme chercheuse dans un contexte particulier et en relation avec des questions, des thèmes. Alors, j'ai écrit dans le passé, j'ai utilisé la pratique du chant et la composition de chant basée sur la poésie que j'ai écrite. Je suis sûre que ce n'est pas aussi bien que la poésie de Mattia, mais j'ai, pour réfléchir sur l'importance de la conscientization, of self-awareness in relationship to nonviolent social change and in the context of the work that we do as peace builders. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment de créer un espace de réflexion pour ceux qui veulent engager dans des contextes de conflit, de commencer par leur propre trajectoire, leur propre histoire, avant d'embarquer dans des projets où, often in situations, projects that are, you know, it's high-stakes situations, so you as an agent of social change or as a peace builder need to be grounded and reflect on what, comme des questions, la paix, ça veut dire quoi pour moi personnellement? Comment est-ce que je peux imaginer ou réimaginer mes propres pratiques d'engagement social envers une future non-violence ou la consolidation de la paix, quelque chose vraiment intégré dans nos vies de tous les jours? So, really briefly, the structure, I'll take several weeks where I will journal. I have a field journal, I'll journal before I engage in the creative practice, and I'll journal after. So in a recent article that I wrote, it was focused on lullabies and how the practice of singing lullabies can help to create that reflective space that agents of social change, personally, that I feel need in order to kind of sort ourselves out and ground ourselves before we engage in the world. So I used a text that from some of the poetry that I had written during the pandemic, and I composed a lullaby that I incorporated into the practice. And when I did these lullaby sessions every day for several weeks, or nearly every day for several weeks. And it was also harnessing the idea of home, because my mother sang lullabies to me. We sing lullabies to my nieces. And so it was part of trying to understand those everyday practices, whether creative practices or not, that helped to build that foundation for the type of work that we do.
Donc, c'est d'avoir comme une vision un peu plus globale de ce qu'un chercheur a besoin dans son contexte de création pour finalement en arriver à une recherche qui est du moins le plus centrée sur ce que nous, en tant que personnes, on peut, nos limites peut-être. C'est comme l'idée, en fait, que, là, tu as parlé, par exemple, des ballades, lullaby, j'ai l'impression que c'est la traduction qui est peut-être la plus adéquate. Donc, de comment est-ce que ça peut nous aider en tant que chercheur à mieux créer, à mieux écrire? C'est un peu ça, l'idée?
Je pense que c'est plus... Il y a différentes façons de faire la recherche-création. Mm-hmm. Alors, l'exemple que j'ai donné, c'est vraiment... C'est particulier à un type de recherche ou recherche-création basée sur l'autobiographie. Et je travaille sur ces idées de... Comme j'ai mentionné, pour moi, le processus de changement social et de leadership, ça commence avec quality of the inner life of the leader and the agent of social change mm-hmm. has an impact on the work that they do in the world.
Donc la qualité de la personne même qui fait le changement social doit être à son maximum ou à son plus sain peut-être quand on pense à cette heure-là pour en arriver finalement à faire un changement social qui est efficace, qui est...
Si je peux... reprendre l'idée et essayer de le communiquer avec plus de facilité en français. C'est vraiment d'utiliser des pratiques artistiques pour créer de l'espace mm-hmm. pour la réflexion critique.
Oui, que je comprends.
Comme dans nos rôles de chercheurs et aussi de changement social. Ça, c'est un volet de mes recherches personnelles. Mais j'ai aussi travaillé sur des projets où on était dans des communautés et on utilisait les modalités, les pratiques de la musique, de l'improvisation pour travailler ensemble des concepts, des expériences autour des conceptions particulières du changement social. Alors, there can be many iterations of what this looks like. So there's not just one way of engaging mm-hmm. with arts in the context of research. And I'm going to give the mic to Mattia, because I'm sure he has many things to say.
Donc, dans ton cas, comment est-ce que tu penses que l'art et la recherche peuvent être combinés en tant que tels? On a parlé un peu tantôt quand même de la création littéraire, de comment est-ce que ça peut sortir des fois des idées qu'on n'aurait jamais pensées par une forme d'écriture automatique, des fois de lâcher un peu notre fou et tout ça. Donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voulais rajouter peut-être sur ce que Lorraine a mentionné?
Mais... C'est ça, je trouve que ce que propose Lorraine, c'est vraiment fondamental. Ça me fait penser aussi à l'imagination sociale des Mills, parce que si on n'a pas le temps, si on ne se donne pas le temps d'essayer d'imaginer, donc les différentes pratiques artistiques permettent de sortir d'un un discours dans lequel... tu connais déjà les règles du discours, donc ce que tu vas chercher, c'est l'imagination, ça sert vraiment pour essayer d'aller ailleurs dans ce que tu peux imaginer. Donc même pour la réalité, ça peut servir d'imaginer mm-hmm. la réalité pour après essayer d'en bâtir une différente. Il ne faut pas aller vers quelque chose d'utopique au 100%, ça suffit d'imaginer des petits changements, mais ça permet avec le partage des connaissances dans la rencontre. C'est, mm-hmm. Et je pense que vraiment ce que propose Lorraine, c'est vraiment cette forme d'expérience holistique. Si dans un cours, tu es là pour apprendre des notions, mais en même temps, on continue de te demander « mais pourquoi tu es là pour apprendre ces notions ?» Ça va changer parce que il y a le regard critique qui s'ajoute parce que c'est tu apprends ces notions, mais en même temps on continue à te demander mais pourquoi et comment tu es en train de les apprendre. Donc mm-hmm. ça je trouve que c'est bien. Moi, il me semble que dans mon cas, dans ce qui m'intéresse là, c'est que l'université Saint-Paul a un grand pourcentage d'étudiants, étudiantes qui sont des migrants, migrantes de première génération. Et j'aimerais bien, ce que je suis en train de voir, c'est qu'est-ce que la création littéraire, ça peut porter à des parcours migratoires. Mm-hmm. Raconter sa vie, qu'est-ce que ça peut apporter. Mais déjà, j'ai trouvé des livres. Il y a un livre qui a été publié par les éditions David d'Ottawa, que c'était à travers un concours, plusieurs textes. Je crois que c'est une quarantaine de textes des migrants et migrantes. Ils ont été publiés. Il y a tout un travail éditorial aussi. Ça, qu'est-ce que ça peut apporter? Il y a l'envie, la fascination de pouvoir transmettre, lire, écrire pour les autres, être lu. Être, devenir, donc se sentir et sentir d'être écrivain, écrivaine, mm-hmm. qu'est-ce que ce sentiment ça peut apporter? Je pense à ce livre, Histoire migratoire, qui s'appelle, mais c'est vu que dans l'innovation sociale, il y a vraiment cette idée de comment on essaye de changer la société et ouais. qu'est-ce qu'on fait, à quel niveau, et en sachant que quand même les plusieurs mouvements artistiques, ils ont été toujours mêlés à société souvent avant-gardiste ou progressiste, ils ont été plusieurs personnes, ils ont été censurés ou autre, mm-hmm. donc il y a quand même peut-être qu'ajouter toujours des activités artistiques, c'est pour construire des activités d'énonciation. Dans mon cas, ce qui m'intéresse vraiment dans mes recherches, c'est comment on construit de la critique à l'intérieur du discours, donc à l'intérieur du langage, des exercices d'écriture, ouais. ça peut servir vraiment pour prendre conscience de comment on utilise nos phrases. Et donc, quand on écrit un texte, n'importe quelle fois qu'on écrit un texte, on fait un choix des mots, que ça vienne pour de comment on se ressent dans nos langues. Et prendre conscience de ça avec des exercices d'écriture, ça sert aussi peut-être pour aller ailleurs dans le choix des mots. Et chaque mot, c'est déjà un acte. Donc, comment choisir les mots et dans quelle manière les choisir pour écrire un texte autour de le sujet d'un cours. Et ça, c'est ce que ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que le langage, c'est la manière qu'on se communique les choses. Mm-hmm. Donc aussi, les manières dans lesquelles on subit les choses, si c'est des discours politiques qu'on nous donne, comment on peut les analyser. Et la pratique de l'écriture, ça permet aussi de peut-être avoir un autre point de vue de ce qu'on entend, de dire, ah, là, peut-être... Il y a beaucoup d'opportunisme dans ce discours. Donc, pour moi, ce serait vraiment les exercices. Ce qui m'intéresse dans des activités d'écriture, c'est faire travailler la forme et comment on peut transformer le même contenu et comment ça change dans la forme. Et là, il me semble que c'est important vu que le langage est partout et ça peut et on le subit aussi. On n'est pas seulement. On fabrique le langage, ouais. mais on le subit comme les identités.
Pendant que vous parliez, j'avais toujours une question qui me revenait en tête là, par rapport à ça. Puis je sais que le crit fait beaucoup ça, donc ils vont prendre un artiste, ils vont le jumeler avec un chercheur dans le processus de la recherche. Puis j'ai toujours intéressant, puis j'ai jamais vraiment pris le temps de comprendre ce que ça avait comme impact.
Il y a 2 ans, j'avais participé donc à une collaboration du CRITS et du Centre d'art d'art de Montréal. Et c'était s'appelait Fabuler la recherche. Donc on est vraiment dans l'imagination et qu'est-ce que ça peut apporter. On a envoyé de manière vraiment libre qui on était, on se décrivait et sur quoi on aimait travailler. Et moi j'étais jumelé avec Julie Paquette.
Okay.
Et donc c'était très intéressant parce que déjà il y avait un intérêt de tous les deux vers certains auteurs et autrices italiennes, parce que vu que Julie Paquette est une spécialiste aussi de Pasolini, donc de la philosophie, de la politique, des discours politiques de Pasolini, et aussi de l'art, de tout ce qu'il a créé. Et puis on était plusieurs binômes, je crois qu'on était une dizaine de binômes, qu'on était à la limite entre recherche et création, et là, c'était vraiment l'expérience. Donc, on s'est rencontrés pour parler 1 ou 2 fois, on disait sur quoi on travaillait, et puis on essayait de construire des manières pour des nouvelles formes de recherche. Par exemple, je me rappelle qu'avec Julie, je ne me rappelle pas précisément comment on l'avait présenté, parce qu'on avait à un certain moment une présentation en ligne, on était en plein Covid, donc ce que je me rappelle, que comme je le traduirais maintenant, c'est qu'on avait travaillé un peu sur la notion des traces dans le sens de gramscienne, de Gramsci. C'est le fait que les traces, à la place d'un discours linéaire, ça permet qu'il y a du vide entre une trace et l'autre, les fragments, et tu lances des ouvertures. Et puis, donc c'était des ouvertures, par exemple, on avait pris des images, on les avait critiquées, pas positivement, négativement, c'est vraiment, on avait fait une pensée critique autour de certaines images, sur certains discours, et on s'était envoyé une correspondance de traces. Et puis on avait lu ces traces pendant la rencontre. centre. Et puis, il y avait eu d'autres possibilités, parce que ça dépendait vraiment, dans ce cas-là, il y avait politique et écriture, que ça nous intéressait, et analyse politique, et à travers l'écriture de certains événements d'actualité. Et donc, il y avait ça. Donc, ça, peut-être, il continue. Je sais qu'il y a d'autres activités de Dar et Dar, mais c'est ça, parce que...
Intéressant. Tu as comme un exemple peut-être concret de ce que la recherche et l'art peuvent être faits en conjointe, sortir des nouvelles idées de chaque bord, en fait, des fois, d'avoir dans l'art une vision peut-être plus sociale de la chose, et de l'autre côté, d'avoir une vision moins rigide et dans un silo, en fait, de ce que la recherche devrait être. Donc, je trouve que c'est un exemple intéressant de cette...
Je voulais juste mentionner que... La recherche-création ou l'intégration des pratiques artistiques est souvent un processus génératif. It's a generative process. Alors, il faut...
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour laisser de la place pour les idées perspicaces, autres façons de faire, d'émerger, du pratique comme telle. Right? So, it's a, the arts are the process of inquiry.
Mm-hmm.
The arts... You do your research through the arts.
Yeah.
Et c'est une autre façon d'imaginer la recherche. Je voulais juste aussi mentionner l'importance de l'imagination. Je dis souvent à mes élèves, il faut imaginer un monde différent avant de le manifester.
Mm.
Just like you need to, you know, you have to imagine what peace can be before we try to bring it into being. Same with, and this is getting back to the ambiguity and the complexity, the same with if we're conflict and war, if we're talking from the perspective of conflict studies and peace building. So there's a centrality to accessing the imagination in social change.
Mm-hmm.
And carving out space and time to do that, that's often... an important initial step. And I would say that it's the same in research.
Je vois le temps filer, puis je voulais finir en fait avec un truc que je trouvais extrêmement intéressant qu'on avait discuté un peu avant l'entrevue. C'était l'exercice que vous faites en fait, où vous prenez vos exercices de création et vous faites en fait là, ce que vous appelez yeux fermés ou des exercices de sans parole. Puis je trouve ça intéressant de voir en fait, parce que dans chacun de vos trucs, vous prenez en fait le sens le plus important et vous le coupez en fait. En fait, je veux savoir en fait, dans vos exercices, ce que ça donnait en fait dans la recherche d'enlever ce sens-là. Puis de comparer, en fait, dans vos deux exercices que, sans même, si vous en parlez, vous faisiez un peu le même concept de couper un sens important dans la recherche pour en arriver à des résultats qui sont quand même intéressants. Je ne sais pas si vous voulez un peu dire ce que vous avez fait là-dessus
oui,
avec ça.
Oui, dans mon cas, donc, j'utilise dans des ateliers d'écriture, mais aussi dans des cours d'écriture, dans les mouvements qu'on fait, on les fait une grande partie les yeux fermés. Donc, les personnes ferment les yeux, suivent ma voix, et je leur demande aussi d'écrire à des certains moments avec les yeux fermés, mais ça porte vraiment une conscientisation de la main, du corps, mais ça provoque aussi de l'écoute. Ça change la relation à l'intérieur d'un groupe. On est beaucoup plus sensible à ce qui se passe dans les groupes, et là, sur le moment. Et il y a la relation au groupe, mais il y a aussi qu'on sort dans les zones de confort. Donc, alterner à des exercices d'écriture, c'est que tu es un peu lancé hors des zones de confort pendant que tu bouges les yeux fermés, parce que tu sais, progressivement, surtout si tu marches d'un côté à l'autre d'une salle, beaucoup des fois tu perds l'équilibre, tu sais pas précisément où est-ce que tu vas, parce que ton pied gauche ou ton pied droit va, t'as plus le temps de penser à l'écriture. Donc, et puis après, tu es replongé dans l'écriture, mais t'as changé un peu ta situation un peu mentale, parce que t'as perdu quelque chose, mais tu as trouvé un autre sentiment. Et donc, il y a le sortir dans les zones de confort et le rapport à l'écoute. Et j'ai suivi un séminaire donné en recherche-création par Lorraine, et il me semble que tu travaillais de manière similaire l'écoute par le silence.
Brièvement. Je commence à travailler sur la pratique de la silence. J'ai fait un projet où pour 3 semaines, Chaque jour, pour une heure, je travaillais en silence, des performances en silence, la création, vraiment. Moi, je faisais de la broderie. Mais il y avait plein de matériel que les personnes pouvaient venir me joindre pour faire de l'art, mais de l'art en silence. Et c'était, l'intention était de réimaginer notre communauté universitaire sur le campus après COVID et de l'utiliser les pratiques de la création et de la silence pour ressentir, to re-feel what it means to be together after the pandemic, or, you know, we're still kind of in and out, but... alors, l'atelier que Mathieu a mentionné, j'ai parlé du projet, et après, on a fait une expérience ou une pratique en silence avec de décorer, emballer la salle de l'atelier dans... in fabric, in different fabrics. Et on a fait la pratique en silence. Alors, je pense que c'est comme Mathieu a mentionné, tu deviens vraiment conscient de le mouvement de ton corps en relation avec les autres personnes, en relation avec l'espace, avec les matériaux utilisés aussi. Et ça change le rapport quand on travaille en silence à l'écoute.
On réalise vraiment plus qu'il y a des gens dans la salle quand on parle pas. C'est vrai que
notre présence, on devient vraiment conscient de notre présence, à plusieurs niveaux. Alors, c'est ça. Je suis vraiment intéressée comme métier à utiliser le silence comme un processus d'émergence dans le contexte de projets de recherche, parce que ça nous force à sortir de nos zones de confort, comme Mathieu a mentionné.
Je pense que là, dans les cours que je vois ou que là, organisé par l'école Elisabeth Bruyère, il me semble qu'il y a quelque chose dans le partage des connaissances construit dans les cours. Il me semble qu'on discute beaucoup. Et il me semble que ça, c'est déjà quelque chose de bien, parce que la discussion, c'est déjà quelque chose de corporel, ou une autre manière que juste écouter une personne qui parle et répondre aux questions, à la discussion. Donc, c'est, il me semble que nos expériences, c'est des variantes aussi du fait de la discussion. S'il y a beaucoup de discussions, les personnes prennent la parole et de manière différente. Ce n'est pas quelque chose de très maîtrisé, peut-être. On laisse les choses c'est construire. Il y a aussi les personnes qui se sont plus à l'aise pendant une discussion, d'autres qui sont plus timides, qui n'ont pas envie de prendre la parole. Et c'est, il me semble que c'est juste le type de discussion à l'école d'innovation sociale, c'est un peu ce qu'on peut arriver aussi à travers ces expériences sous le silence, sous les yeux fermés.
Puis je pense que c'est vraiment ça le point principal de notre discussion. En fait, c'est, quand je veux résumer extrêmement brièvement, de l'importance de l'art dans la recherche, c'est un peu sortir de cette zone de confort-là qu'on a, des fois d'un schéma très, très standard de l'écriture académique, de « on s'assit, on écrit ». Puis des fois, ça va arriver à des résultats qui sont peut-être assez standards, alors que si on vise à sortir de cette zone de confort-là par l'art, puis on a donné des exemples par le silence, par différentes discussions qu'on a avec des gens, on peut vraiment arriver à des résultats qui sont axés véritablement sur le changement social plutôt que simplement d'arriver avec un résultat qui est peut-être académique, théorique, qui n'a pas vraiment une vision très pragmatique dans la vie des gens. Donc moi, c'est ça un peu l'essentiel de la chose, de sortir de sa zone de confort. Puis pour conclure, en fait, en parlant de sortir de sa zone de confort, moi, c'est pour moi d'avoir des discussions comme ça sur des sujets qui sont artistiques. Ça me sort personnellement dans ma zone de confort. C'est des choses que même moi, j'ai développées récemment, qu'en fait, j'ai de la difficulté à aborder ces sujets-là. Puis je pense que ça me force beaucoup à changer ma perspective sur ces choses-là. J'avais une vision très pragmatique de la politique, des relations de pouvoir, des choses qui sont extrêmement grandes et extrêmement grosses. Mais là, c'est d'arriver plutôt à se recentrer sur ce qu'on est en tant que humain, l'art qui nous relie, les discussions qu'on a. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement importantes dans la recherche, puis je pense qu'on néglige souvent, souvent, souvent. Donc, je ne sais pas si j'ai bien fait un tour d'horizon de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre temps. C'était extrêmement enrichant, extrêmement... ça remet beaucoup en perspective, moi, personnellement, ma vision de la recherche, mais également peut-être la vision de la recherche de d'autres personnes également. Donc voilà, merci, merci beaucoup pour votre temps, puis on se reparle bientôt.
Merci à toi.
Merci, Félix.
Salut, à la prochaine, et on se voit au prochain épisode.